This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Turquie et au Québec, plus la DER de Bruxelles de Quentin Dickinson. Ce sera ailleurs dans le monde avec Olivier Poujade. Notre nouveau rendez-vous du mercredi consacré à la campagne électorale en Allemagne. C'est avec la France l'autre élection cruciale pour l'Europe. Cyril Sauvageau à Berlin, 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger en Argentine où un fait divers tragique relance la lutte pour les droits des femmes. Mais tout de suite, on va parler de l'OTAN.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
L'OTAN critiquée pendant l'élection américaine, Donald Trump déclarant que les États-Unis n'avaient pas vocation à être les gendarmes du monde, qui plus est à leurs frais. Les membres de l'OTAN devaient donc augmenter leurs dépenses militaires pour rester sous le parapluie commun. Et dans la campagne électorale française, l'OTAN est également un marqueur de l'indépendance du pays. En sortir, y rester sous condition, y rester à minima, toute la gamme est possible. Je salue Olivier Kempf, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, auteur de cette somme qui s'intitulait « L'OTAN au XXIe siècle » aux éditions du Rocher. On avait eu d'ailleurs le plaisir de vous recevoir quand ce livre était sorti. Vous dirigez la lettre stratégique « La Vigie ». Alors après une rude campagne, Olivier Kempf, Donald Trump rencontre aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN. On attend une déclaration commune. Vous attendez quoi, vous, d'une rencontre de ce type ?
Pas grand-chose, très honnêtement.
Ça a le mérite d'être clair.
Oui, non, le secrétaire général est allé là-bas pour plaider, j'allais dire, la cause, pour plaider l'intérêt de l'Alliance Atlantique et de l'OTAN vis-à-vis d'un otano-sceptique qu'est Donald Trump. Alors certes, il avait eu des mots très durs pendant sa campagne, il est légèrement revenu sur ses dires depuis qu'il est président des États-Unis. Cela étant, on sent bien que pour Donald Trump, l'OTAN et d'une certaine façon l'Europe, c'est pas sa tasse de thé.
C'est nouveau ça chez un président américain de manière aussi littérale.
À ce point-là, non, parce qu'il y a d'abord une tradition américaine de remise en cause justement du déséquilibre transatlantique avec des Européens qui ne payent pas. Ça avait commencé avec George W. Bush, ça avait continué avec Obama. Souvenez-vous d'Obama dans l'interview de l'Atlantique il y a un peu plus de 2 ans qui avait dit « l'Europe, ce sont des passagers clandestins ». Trump va encore plus loin sur une thématique qui, vous le voyez, est transpartie. Elle n'est pas simplement celle des républicains ou des démocrates, c'est réellement quelque chose qui est très présent chez l'ensemble de la scène politique américaine. Donc là, il y a une tradition.
Il y a une tradition donc d'otano-scepticisme, comme vous le disiez à l'instant, Olivier Kempf. Qu'est-ce qui pourrait être remis en question si on passait du scepticisme à une politique plus agressive à l'égard de l'OTAN ?
J'ai du mal à croire que l'actuel gouvernement américain puisse sortir de l'OTAN. En revanche, là où il va aller beaucoup plus loin, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui s'est passé quand il a reçu Madame Merkel il y a un mois, c'est d'être beaucoup plus exigeant sur justement l'équilibre des dépenses de défense. Alors on peut critiquer ce critère, cela étant, constatons que vous avez des pays en Europe qui payent moins de 1% de leur budget pour la défense et que les alliés, depuis maintenant 3 ans, disent qu'il faudrait arriver à 2%. Alors, est-ce que c'est le bon seuil ? On n'en sait rien. Cela étant, le déséquilibre n'est pas seulement le fait des Européens, c'est aussi le fait des Américains qui sont à plus de 3%. Et là, avec Trump, ça va monter jusqu'à 3,5 ou 3,6, c'est-à-dire dans des proportions extrêmes. Il y a 2 autres choses qu'il faut voir derrière dans l'attitude de Trump. C'est d'une part, il veut vendre plus de matériel américain, et donc là il veut satisfaire dans sa politique intérieure la base industrielle et technologique de défense, parce que augmenter rapidement les cadences, il n'y a que les Américains qui sont capables de vendre des chars, des avions et ce genre de choses. Et puis je crois qu'il y a aussi une pression très forte contre les Allemands. Il ne faut pas se tromper, pour les Américains, l'Europe c'est surtout l'Allemagne, et c'est une Allemagne qui est la grande bénéficiaire de la mondialisation. Et s'il y a une nouveauté de Trump, c'est cette ligne idéologique-là qui est celle de l'anti-mondialisation telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui.
Alors ce qui est intéressant, Olivier Kem, c'est qu'on part de l'OTAN, on croise des enjeux économiques et industriels et des enjeux géopolitiques qui finalement on peut avoir avec la chose militaire, pour ces derniers en tout cas.
Oui, mais parce que l'OTAN, c'est aussi l'Alliance Atlantique, qui est d'abord une organisation internationale, un lieu politique, avant d'être une organisation militaire, donc quelque chose de technique. Et effectivement, c'est un lieu politique où les deux rives de l'Atlantique se réunissent. Et le point de Trump, mais il y avait déjà ça chez Obama, c'est de donner la priorité ailleurs. Et le ailleurs, aujourd'hui, c'est clairement du côté de la Chine, de la Corée, de la mer de Chine du Sud, que sont les préoccupations américaines, à cause de questions stratégiques et puis à cause de questions économiques. Donc, les deux ressorts de la puissance qui intéressent aujourd'hui Washington.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Olivier Kempf, quelles sont les grandes lignes du traité de l'Atlantique Nord ? Qu'est-ce qui nous rassemble au sein de l'OTAN ? Dans quel but aujourd'hui ?
Le traité de 1949 a un grand mérite, il a 14 articles, quand vous le comparez avec le traité de l'Union Européenne, ça fait rêver.
Oui, oui.
Voilà, donc tout
vous
le monde peut le lire,
et
tiens, une page et demie.
Oui.
Voilà, il commence par une déclaration de valeur, et c'est important cette notion de valeur, parce que les alliés, les Européens, mais les Américains aussi, s'y réfèrent toujours, et pour moi, c'est malgré tout le lieu politique de l'Occident, disons les choses très simplement. Bien évidemment, il y avait des Occidentaux en dehors de l'Europe et des États-Unis et du Canada, mais malgré tout, c'est le lieu de l'Occident. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, vous avez l'article essentiel qui est l'article 5 du traité de Washington, qui dit que chaque allié prendra, en cas d'agression contre l'un d'entre eux, donc sur une formule de tous pour un, prendra les mesures qu'il jugera nécessaires. Et là, il faut préciser, parce que tout le monde pense qu'il y a un mécanisme automatique. Or, la formulation du traité laisse malgré tout part à l'appréciation. De quoi s'agit-il en fait ? Eh bien, il s'agit d'un accord qui est traité après deux guerres mondiales où les Américains interviennent très tard dans les guerres mondiales, en 17 pour la première et puis en 41-42 pour la deuxième. Et là, il s'agit de qu'ils soient là dès le début de la guerre. Et donc, le traité, c'est d'abord quelque chose qui est utile aux Européens, c'est quelque chose que les Français ne voient pas du tout, mais c'est d'abord quelque chose qui sert aux Européens d'abord à assurer leur sécurité et aussi à obtenir la garantie américaine. Mmh. Ce qui explique d'ailleurs cette longue tradition américaine de dire, écoutez, payez plus, parce qu'on veut bien vous accorder notre garantie de sécurité, mais il faut que vous jouiez le jeu.
Sur l'OTAN, sur la critique de l'Allemagne, dont vous disiez un mot tout à l'heure, sur la critique aussi très virulente de l'Union européenne, on a pu dire que Donald Trump était en fait en train de tourner la page de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, et que on entrait dans un monde donc où ces grands équilibres-là, issus d'un conflit meurtrier, commençaient à être fragilisés. Vous partagez cette analyse ?
Je vais encore plus loin. Je crois que l'après-guerre froide, on l'a faite en 90. Là, on entre dans une séquence qui est celui de l'après-guerre froide. Mmh. On rentre pleinement dans le 21e siècle et Trump n'est pas le déclencheur. Trump est juste le signal de quelque chose qui avait commencé avant et qu'on peut à peu près échelonner aux alentours de la crise financière de 2008. Ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans que l'on voit bien que ce monde est incertain, qu'il change, que toutes les organisations internationales que nous connaissions sont en panne, ne répondent pas, qu'il y a des crises que nous ne savons pas répondre et que vous avez de plus en plus d'acteurs émergents qui recourent à une grammaire de la puissance qui n'est pas celle que nous espérions pendant l'après-guerre froide.
Mmh. Est-ce que cette organisation pensée après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte géopolitique très particulier, avec des menaces bien connues qui étaient la menace nucléaire, est-ce que cette organisation donc a encore une utilité à l'heure du terrorisme et d'autres formes de violence qui ne prennent pas les formes militaires classiques ?
Alors, elle a une utilité, mais résiduelle. Voilà, il ne faut pas dire l'OTAN va tout faire, et c'est pour ça, quand j'entends certains atlantistes, appelons-les comme ça, dire l'OTAN va faire du contre-terrorisme, etc., je suis assez sceptique. En revanche, l'OTAN est encore très utile pour deux raisons principales. La première, c'est que elle marque clairement des lignes rouges à l'est de l'Europe et grâce à l'Alliance Atlantique, mmh. vous avez nous et puis un les autres. Et les autres, et en l'occurrence la Russie, nommons-la directement, savent très bien quelle est cette limite. Et c'est pour ça que si vous écoutez les discours de Vladimir Poutine et de la scène stratégique russe, ils disent « nous ne craignons pas l'OTAN, nous craignons l'élargissement de l'OTAN ». Donc je pense que cette ligne rouge est très utile parce que finalement, un de ses effets positifs qui est très très peu vu est celui d'assurer malgré tout une sécurité, une stabilité intérieure à l'Europe. Et ce qui fait d'ailleurs que collectivement, nous dépensons beaucoup moins en dépenses de défense parce que nous sommes collectivement dans le même bateau. La deuxième utilité, je pense, c'est la notion d'interopérabilité qui permet à des militaires anglais, allemands, français, espagnols, polonais, baltes, roumains, de travailler ensemble, d'avoir les mêmes références. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très utile, que ce soit d'ailleurs dans un cadre allié, dans un cadre européen, ou même dans le cadre des coalitions de circonstances que nous observons de par le monde.
Olivier Kempf, avant d'atterrir en France dans la campagne présidentielle, un mot de la Turquie. Vous l'avez dit, l'OTAN est d'abord une enceinte politique, puis militaire, ou militaire et politique. Comment ça se passe en ce moment vis-à-vis de la Turquie avec une évolution substantielle de son régime et de son modèle politique ?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous voyez que la Turquie est quand même très fâchée avec les Européens, elle est très fâchée avec les Américains, donc vous dites, elle va être fâchée avec l'OTAN. C'est pas aussi simple, parce que justement, elle reste dans l'Alliance, et elle fait très attention à y rester, parce que c'est son point d'ancrage, son enracinement, ce qui lui permet de dire, on fait partie de l'Occident, l'Occident dont je vous parlais tout à l'heure. Et je crois que Erdogan, mais que ce soit Erdogan ou un autre, aucun dirigeant turc n'abandonnera cet ancrage justement à cause de sa signification géopolitique.
Alors, on arrive en France maintenant. Qu'est-ce que le commandement a intégré ? Pourquoi la France l'a-t-elle rejoint très récemment ?
Oh, elle l'a rejoint en 2009 à la suite d'une décision du président d'alors qui était Nicolas Sarkozy. Rappelons-le, il n'avait pas annoncé la chose pendant la campagne électorale de 2007. Donc ça a été une surprise quand, à la sortie de l'été 2007, il a dit « Tiens, on va commencer à se réintéresser à la chose ». Cela étant, à l'époque, le contexte était légèrement différent, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus d'opérations conduites par l'OTAN. Et il y en avait notamment une assez importante en Afghanistan. Et donc, le retour dans l'organisation intégrée était le moyen, à l'époque, de reprendre l'influence, la place nécessaire correspondant au prix opérationnel et à notre engagement opérationnel que nous jouions à l'époque. 10 ans après, on s'aperçoit que l'OTAN, et là c'est pas l'Alliance Atlantique, c'est l'OTAN, conduit beaucoup moins d'opérations. C'est-à-dire que le moment expéditionnaire qui a commencé juste après 90-92, eh bien il s'est finalement terminé en 2014. Souvenez-vous, une des questions que vous m'avez posée sur que signifie Trump, je vous ai dit c'est l'après-guerre froide. Eh bien, cette après-guerre froide était ce moment expéditionnaire et l'OTAN fait face aujourd'hui à la fin de ce moment expéditionnaire qui a duré 20 à 25 ans. Donc voilà, aujourd'hui, l'intérêt concret, opérationnel, direct, est probablement moindre qu'il y a 10 ans, mais il demeure au titre de ce que je vous disais aussi, c'est-à-dire celui du partage des procédures et de l'interopérabilité.
Comment prenez-vous dans la campagne française l'idée qu'il faudrait, que défendent certains candidats, sortir du commandement intégré de l'OTAN, première étape avant de sortir de l'OTAN tout court?
Alors, sortir de l'OTAN tout court, c'est peut-être, à mon sens, excessif pour les motifs que j'ai dit. Et d'ailleurs, le général de Gaulle n'était pas sorti de l'Alliance Atlantique. Il était resté dans l'Alliance, même s'il avait quitté le commandement intégré. Après, vous avez plusieurs formules. Vous avez la formule gaullienne. Vous avez la formule de Chirac de 95, où nous étions revenus au comité militaire, qui est le grand comité tout en haut à côté du Conseil de l'Atlantique Nord. Vous aviez eu une formule intermédiaire qui avait été signée en 2003, donc on va dire Chirac 2, où on avait inséré 100 militaires dans la structure, et c'était suffisant pour savoir ce qui se passait, influencer et avoir le bon retour. Et puis vous avez la formule actuelle, où on a une participation pleine et entière, suivant l'expression consacrée, où on a 800 soldats. Donc, revenir en arrière, c'est possible. Vous voyez qu'on a plusieurs étapes, qu'il y a plusieurs options. Après, c'est une décision politique, bien évidemment.
Mais ce serait pas un drame, c'est ça le sens de ma question.
On a vécu 100, 35 ans 100, donc je ne vois pas pourquoi ça serait un drame. Voilà.
Une dernière question. Il y a beaucoup dans la campagne de propositions quant à l'Europe de la défense. Est-ce qu'une Europe, une véritable Europe de la défense, rendrait caduque l'existence de l'OTAN?
Je n'y crois pas. Alors d'abord, je n'aime pas beaucoup l'expression Europe de la défense parce qu'elle est intraduisible en anglais et donc nos partenaires européens la comprennent absolument pas.
Non, mais, voilà, voilà.
Non, mais oui, c'est une idée qui est typiquement française, c'est ça que je veux dire. C'est une idée française, intraduisible et notre posture n'est pas prise par nos partenaires européens, nos alliés européens. Qui pour eux, et je le rappelle, mettent d'abord l'OTAN en premier. Il ne faut pas s'y tromper. Je veux dire, même un pays comme la Suède, qui est membre de l'UE et qui n'est pas membre de l'Alliance Atlantique, quelque part dit l'OTAN d'abord. Et donc, vouloir remplacer, c'est quelque part croire que ça pourra se passer. Derrière, il y a aussi une autre difficulté. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans le système européen, l'élaboration de la prise de décision n'est pas aisée. Finalement, ce qu'apprécient les autres Européens, peut-être pas forcément nous, mais nous avons des liens bilatéraux avec les Américains. Mais les autres Européens, c'est que, il y a un primus inter pares, il y a un premier parmi les pairs, et à la fin, c'est quand même les Américains qui décident. C'est-à-dire que ce qui, vu de France, est perçu comme un handicap, vu de la part de toutes les autres capitales, est vu comme un avantage.
Très clair et passionnant. Merci Olivier Kempf. Vous étiez avec nous en direct et en duplex depuis les studios de France Bleu Armorique à Rennes. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, auteur de ce livre « L'OTAN au XXIe siècle » publié en 2014 aux éditions du Rocher. Et vous dirigez également la lettre stratégique La Vigie. Dans quelques instants, 18h34, Olivier Poujade pour Ailleurs dans le Monde, Foxygène sur Inter. Foxygène sur Inter.
20 hours, 4 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Olivier Poujade.
Bonsoir Nicolas.
On part en Turquie, Olivier, à quelques jours d'un référendum qui va peut-être faire basculer le destin du pays.
Référendum initié par le président en personne. Dimanche, les Turcs se prononceront sur une modification de la constitution qui pourrait faire de Recep Tayyip Erdogan un super président sans véritable contre-pouvoir. Difficile dans ce contexte de faire campagne contre cette réforme. Les opposants subissent régulièrement des pressions et disposent de très peu de moyens pour se faire entendre, ce qui ne les empêche pas de s'exprimer. C'est le cas de Selina Doğan, première femme arménienne élue au Parlement turc en 2015. Un profil atypique pour une députée qui n'a pas peur de défier Erdogan, comme a pu le constater Laura May Gaverio.
Je retrouve Selina Doğan auprès des Arméniens chrétiens d'Istanbul lors d'une réception de Pâques au très chic Hôtel Marriott. L'occasion pour les leaders de la communauté de faire passer quelques messages politiques. D'après elle, malgré la débauche de moyens télévisuels, l'AKP n'a pas fait campagne puisqu'ils n'ont développé aucun argument. Ils ont simplement mis en scène le président pour personnaliser le référendum.
Dans les médias, vous ne pouvez pas entendre pourquoi il faut dire oui. Donc leur campagne s'est basée sur la criminalisation de l'opposition. Et donc dans les rues, ils nous disent « vous êtes terroristes ». Toutes les députées de l'opposition ont été menacées. Donc il y a une atmosphère qui affirme cette discrimination et ces violations.
Vous l'avez compris, en Turquie, le climat politique est rude. Ici, le combat n'est pas une métaphore, on en vient parfois aux mains dans l'hémicycle. Comment Selina Doğan vit-elle le fait d'être une femme députée dans l'opposition, dans un parlement qui compte 89 représentantes sur 500 élus, émanation d'une société très misogyne?
Ça fait maintenant 15 ans que le AKP est en pouvoir. Ils ont un discours tout à fait discriminatoire. Ils affirment, je dirais, la violence contre la femme. Et en plus, si vous êtes arménien, c'est beaucoup plus dur parce que le mot arménien, c'est comme insulte.
En 2015, le président de son parti l'investit candidate à Istanbul pour commémorer les 100 ans du génocide arménien. Elle est élue en plein chaos politique, attentats et coups d'État inclus, une promotion qui n'avait rien d'un cadeau. Mais pour cette mère de famille super diplômée, plus qu'un mandat, il s'agit d'une mission historique, un sacerdoce.
La Turquie est divisée en deux. Il y a des gens qui ne veulent pas être voisins avec des gens qui votent pour un autre parti. Ils ne veulent pas que leurs enfants jouent ensemble. J'ai peur de cette langage hostile qui nous divise. Toutes ces polarisations, c'est à cause du rhétorique qui domine la Turquie.
Quels que soient les résultats de dimanche, Selina Doğan continuera d'être une voix de l'opposition, quels que soient les risques. Qu'ils viennent d'un pouvoir chaque jour plus autoritaire ou de groupuscules fascistes n'appréciant pas qu'une Arménienne ose parler haut et fort, enfin, sur la scène publique turque.
Portrait de Selina Doğan, députée d'opposition au Parlement turc, signé Laura May Gaverio.
Et à 18h41, comme chaque mercredi, c'est la DER de Bruxelles qui nous tend les bras,
et
Olivier.
Et c'est au Parlement européen que nous nous rendons ce soir pour retrouver, bien sûr, notre correspondant Quentin Dickinson. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Olivier et bonsoir à tous.
Vous revenez ce soir, Quentin, sur un sujet abordé hier lors d'une commission des affaires constitutionnelles au Parlement européen. Un véritable casse-tête. Que va-t-on faire des 73 sièges laissés vacants par les eurodéputés britanniques au printemps 2019? Qu'est-ce qu'on va en faire?
Oui, que faire de ces sièges, en effet? Cela fait partie de ces questions qui ont l'air toutes simples comme ça, mais que les comités d'experts et les eurodéputés ont le don de rendre parfaitement opaques. Vous dites sans doute qu'il n'y a que deux options. Ou bien on y renonce, et le Parlement européen du coup ne compte plus que 678 membres, ou alors on redistribue les 73 sièges en fonction de la population des 27 pays qui restent dans l'UE. Trop simple, visiblement, car certains élus estiment que renoncer, eh bien, c'est faire afficher une preuve d'économie, mais d'autres y voient au contraire un déni de démocratie. Alors, redistribuer. Là, les eurocrates se sont surpassés. Ils ont mis au point pas moins de 4 formules possibles, dont l'intitulé fait rêver. Il y a la méthode dite parabolique, celle dite du compromis de Cambridge, celle de l'algorithme d'ajustement et celle du système de la représentation proportionnelle dégressive. Faites votre choix. Mais tout cela s'était compté sans la perverse ingéniosité de quelques-uns qui tentent d'établir un lien arithmétique entre le nombre de députés, d'une part, et les règles de pondération des votes en Conseil des ministres de l'UE.
Vraiment aucune autre option, Quentin ?
Et si, bien sûr, il y a celle qu'on évoque de façon croissante et qui consiste à attribuer les 73 sièges à des listes européennes transnationales par famille politique. En clair, l'électeur français disposerait de 2 voix, une comme actuellement dans sa circonscription et une autre qui irait à une liste unique, la même dans tous les pays et composée de candidats venus de partout en Europe. On aurait ainsi le choix entre la liste européenne socialiste, la liste européenne de centre droit, la liste européenne verte, etc. Le tout, c'est de savoir s'il reste assez de temps pour mettre cette formule en œuvre d'ici 2019.
Et tout est beaucoup plus simple maintenant. Avec nous en direct, Quentin Dickinson, notre correspondant auprès des instances européennes.
Allez, on file au Canada à la rencontre, Olivier, d'un philosophe engagé.
Cet homme est vent debout contre l'évasion fiscale, celle organisée notamment par un géant pétrolier que l'on connaît bien, Total. Dans son livre « De quoi Total est la somme » aux éditions Rue de l'Échiquier, ce philosophe québécois démontre comment les sociétés supranationales agissent en toute impunité au mépris du droit des citoyens et de l'environnement. Notre correspondante Pascal Guéricola a assisté à l'une des présentations d'Alain Deneau à Québec.
Très fouillé et bien documenté, le livre « De quoi Total est la somme » décrit le fonctionnement d'une entreprise qui étend son action dans 130 pays à travers les 882 sociétés qui la composent. Devant un public suspendu à ses lèvres, l'auteur Alain Deneau souligne la façon dont la multinationale joue de ses appuis politiques pour rentabiliser ses investissements. Très présente dans l'exploitation du pétrole canadien, la multinationale a réussi par exemple à faire financer ses infrastructures pour exporter cette ressource, comme l'explique l'auteur du livre.
Le pétrole des sables bitumineux en Alberta ne vaut rien s'il n'y a pas d'oléoduc pour le transporter, parce qu'il n'y a pas de port au milieu du Canada. Donc c'est un pétrole qui, pour être valorisé, requiert des infrastructures de transport de type oléoduc. Il y a, au conseil d'administration de Total, la famille Desmarais, par ailleurs, très influente auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, laquelle a investi 2 fois plus en Alberta, directement ou indirectement dans les infrastructures pétrolières, qu'au Québec. Et elle est un acteur de poids pour favoriser l'investissement et le développement dans les infrastructures nécessaires à la valorisation de ce pétrole, de telle sorte que l'exploitation des sables bitumineux devienne pertinente pour les investisseurs. Et donc, en cela, on a l'exemple même de la façon dont Total peut se comporter comme un pouvoir à l'échelle internationale, le plus souvent sous le couvert de la légalité. Ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre aujourd'hui en quoi les multinationales s'imposent, non pas comme des entreprises engagées dans telle ou telle filière d'activité, mais comme des pouvoirs.
On sent que c'est savant, mais qu'on n'a pas besoin de comprendre.
Dans l'assistance, plusieurs découvrent avec surprise que la Caisse de dépôt, un organisme public de gestion des retraites de tous les Québécois, investit dans les oléoducs pour permettre à Total d'exporter son pétrole. C'est un paradoxe, car majoritairement, le Québec s'oppose au pétrole de l'Ouest canadien, très polluant. Du coup, cette jeune femme apprécie d'en apprendre davantage sur sa société grâce au travail de documentation d'Alain Deneau.
C'est comme des pièces de casse-tête qui se mettent en place, là, je dirais. C'est sûr que ça fait écho à des choses qu'on perçoit puis qu'on ne sait pas toujours comment expliquer dans les nouvelles, dans l'actualité. Donc, c'est effectivement, là, ça donne envie d'en connaître plus.
C'est dur pour les gens qui voient tout ce qui ne marche pas de faire voir à ceux qui ne le voient pas. Puis j'ai l'impression qu'on est assez chanceux pour avoir des gens comme lui qui sont capables de le faire, ce décortiquage-là. Plus il y a de gens qui le lisent puis qui commencent à le voir, ben on sort de la caverne progressivement tous ensemble.
Selon l'auteur, qui a aussi écrit sur les sociétés minières canadiennes et l'évasion fiscale, il est indispensable de mener à bien des recherches sur des entités ou des familles influentes, comme les Desmarais au Canada, qui préfèrent l'ombre au projecteur.
Il est très difficile de critiquer la famille Desmarais dans une université dont un des campus porte le nom des Desmarais, ou dans une école qui a, au sein de son conseil d'administration, un membre de la famille Desmarais, oui. C'est inhibant et les pères nous pardonnent mal, que l'on morde la main qui prétend nous nourrir.
Le livre prend son envol depuis quelques semaines, coédité chez Éco-Société au Québec et rue de l'Échiquier en France.
Pascale Guéricola, correspondante pour Radio France à Québec.
Et nous finirons ce soir, Olivier, en eau profonde au large du Panama.
À la découverte d'une nouvelle espèce sous-marine, la Cynalpheus Pink Floydi, Nicolas, petite cousine de la crevette pistolée, car elle est dotée, nous dit-on, d'une très grosse pince. Pince dont le claquement produit un son assourdissant, capable d'étourdir ses proies. La particularité de la Cynalpheus Pink Floydi, qui doit son nom au co-directeur du rapport sur la découverte de ce nouveau spécimen, un certain Sammy De Grave, lui-même étourdi dans sa jeunesse par le groupe britannique Pink Floyd. Shine on You Crazy Diamond du groupe Pink Floyd, qui vient donc de donner son nom à une crevette.
Oui, ben voilà, maintenant on pensera à des grosses gambas quand on écoutera Pink Floyd. Merci Olivier Poujade.
Le 18-20, Nicolas Demorand, Un jour dans le monde.
Et direction Berlin pour le troisième épisode de notre rendez-vous sur la campagne électorale allemande. 2017, vous le savez, s'annonce comme une année décisive pour le pays, avec des élections fin septembre où Angela Merkel va devoir batailler ferme pour un quatrième mandat de chancelière. Parmi les thèmes en discussion dans la campagne, le mariage pour tous, car contrairement à de nombreux pays européens, l'Allemagne n'a pas encore franchi le pas et donné les mêmes droits aux homosexuels. Mais les choses pourraient changer. changé, Cyril Sauvageau?
Les mêmes droits, le même contrat de mariage pour tous les couples, on n'en est pas encore là. Contrairement à la France, par exemple, l'Allemagne continue de faire la distinction. L'union civile pour les homosexuels, en vigueur depuis 15 ans, n'est pas comparable au mariage, en termes de fiscalité notamment. L'adoption également reste impossible pour les couples gays. Il y a 4 ans déjà, les sociaux-démocrates avaient tenté de faire inscrire le mariage pour tous dans le contrat de grande coalition, sans succès. Depuis, ils ont remis le sujet sur la table à plusieurs reprises. Dans les discussions avec la CDU d'Angela Merkel, cela n'a rien donné. A priori, le mariage pour tous ne verra donc pas le jour pendant cette législature, au grand dam de Thomas Oppermann, l'un des chefs de file du SPD.
Quand on parle de mariage aujourd'hui, on ne devrait pas avoir à se soucier du genre ou de l'orientation sexuelle. Tout ce qui compte, c'est de savoir si les partenaires sont prêts à s'unir de façon durable et à se soutenir mutuellement. Donc, tout le monde doit pouvoir se marier.
À défaut d'avoir su convaincre les chrétiens démocrates, le SPD et son candidat Martin Schulz veulent donc en faire un thème de campagne pour les législatives. Un bon moyen d'attaquer Angela Merkel et son parti pour leur conservatisme. La chancelière, il est vrai, s'est prononcée à plusieurs reprises contre le mariage pour tous et l'aile droite du parti ainsi que les Bavarois de la CSU restent très méfiants. Ils estiment que l'union civile est suffisante. Mais la jeune garde de la CDU se veut plus ouverte et optimiste, à l'image de Jens Spahn, l'un des héritiers potentiels d'Angela Merkel, interrogé dans le journal de l'ARD.
Les choses sont en train de changer. La CDU est un parti populaire et les débats, les évolutions de la société se reflètent aussi dans notre parti. C'est pourquoi je pense que nous allons y parvenir d'ici quelques années, sans doute avant 2020.
L'opinion publique en tout cas semble mûre pour accepter le mariage pour tous. 83% des Allemands y sont favorables, selon une étude d'un institut fédéral. Il n'était que 65% il y a 10 ans.
Allez, en bref, Cyril, un autre sujet qui s'invite dans la campagne allemande, les suites de la crise grecque.
Et là, ce sont les conservateurs de la CDU qui montent au créneau pour alerter les électeurs. La Grèce vote Martin Schulz, c'était le titre un peu racoleur du quotidien Bild il y a quelques jours, faisant écho à ce qui se dit dans les rangs du parti chrétien-démocrate. Une victoire du candidat SPD signifierait plus de transferts d'argent à la Grèce et moins d'exigences en termes de réformes. Voilà où nous mènerait une coalition de gauche, prévient le conservateur bavarois Markus Söder, avec un grand perdant, selon lui, un dindon de la farce, le contribuable allemand.
La campagne allemande, notre nouveau rendez-vous avec Cyril Sauvageau à Berlin. Merci.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
Et à 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Direction l'Argentine aujourd'hui, où le viol et le meurtre d'une jeune fille de 21 ans a bouleversé le pays.
Elle s'appelait Micaela Garcia, elle était originaire de la province d'Entre Ríos, à environ 200 km au sort de Buenos Aires, et elle a disparu au soir du 1er avril. Son corps n'a été retrouvé que dans un terrain vague que 8 jours plus tard, c'est-à-dire samedi dernier, et c'est peu dire que son cas a bouleversé tout le pays. Des manifestations rassemblant des milliers de femmes et d'hommes, mais surtout de femmes bien sûr, ont eu lieu mardi en son hommage à Buenos Aires, à Rosario, à Santa Fe. Le président Macri est intervenu à la radio pour exprimer son dégoût. Le pape François a pris le temps de téléphoner aux parents de Micaela pour les soutenir et puis bien sûr les écouter. Mais pour bien comprendre cette émotion, il faut revenir un tout petit peu en arrière.
Allez-y, Anthony.
Il faut revenir évidemment à l'histoire même de cette jeune femme et de son meurtrier. C'est exactement ça. D'abord, le meurtrier, il s'appelle Sébastien Wagner. Il a 30 ans et il venait de sortir de prison un an auparavant. Il avait été condamné en 2010 pour 2 viols. Or, il est sorti de prison avant la fin de sa peine et contre l'avis des psychologues qui le suivaient. Un juge en a décidé ainsi. Le juge s'appelle Carlos Alfredo Rossi. Un juge qui, aujourd'hui, évidemment, est unanimement dénoncé, tant par les parents de Micaela, mais aussi par le président Macri lui-même, qui a déclaré « Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des juges comme lui ». C'était il y a quelques jours. Même la famille du meurtrier a avoué son incompréhension devant la mise en liberté de Sébastien Wagner, avec lequel elle n'entretenait plus aucun rapport. C'est d'ailleurs elle, la famille, qui s'est rendue à la police pour permettre son arrestation. Enfin et surtout, il y a bien sûr la victime. Micaela Garcia appartenait à un mouvement de défense des droits des femmes né en Argentine. Argentine, c'était en 2015, qui s'appelle Ni Una Menos, c'est-à-dire Pas Une de Moins, un mouvement qui se bat contre les violences faites aux femmes et qui, en quelques mois, s'est développé sur l'ensemble du continent. En juin et en novembre 2016, hein, d'énormes manifestations ont ainsi eu lieu dans une dizaine de pays sud-américains.
Est-ce parce que l'Amérique latine, Anthony, est particulièrement touchée par le phénomène ?
Bon, d'abord, le phénomène, pour tout vous dire, est mondial. On estime que 38% des femmes tuées dans le monde le sont par leur conjoint. Mais c'est vrai qu'il y a bien une spécificité décidément, sud-américaine. Sur les 10 pays qui ont le taux de féminicide le plus élevé au monde, 7 se situent en Amérique latine. D'ailleurs, le terme féminicide que je viens d'employer est un néologisme formé à partir du mot espagnol féminicidio ou femicido ou femicidio. Il s'est généralisé pour évoquer spécifiquement les meurtres de femmes à caractère sexuel ou domestique. Cela dit, un chiffre, ça reste abstrait, alors je vais essayer d'être plus concret. En France, une femme meurt tous les 3 jours tuée par son conjoint. En Argentine, c'est une par jour. Or, l'Argentine compte 43 millions d'habitants et la France, 66 millions. Alors évidemment, on peut égrener les chiffres, comme je viens de le faire, et de se dire que décidément, le monde est d'une barbarie sans nom. Mais on peut aussi trouver remarquable la mobilisation des femmes argentines et sud-américaines. Encore une fois, de l'Argentine au Brésil, de l'Uruguay au Mexique, elles sont dans les associations, elles militent, elles se mobilisent et surtout elles descendent dans les rues par dizaines de milliers pour dire encore et toujours « ni una más, pas une de plus ».
Anthony Bélanger, merci. À 19h20, un nouvel épisode de notre série de Téléphone Sonne sur la campagne invisible, ces sujets qui ne suscitent pas ou peu de débats entre les candidats. Ce soir, la politique étrangère et européenne de la France. Alors bien évidemment, des propositions existent. Quelques thèmes ont même émergé, certains ayant débouché sur des confrontations entre les candidats. En revanche, pas de vision claire de ce que doit être la place et le rôle de la France dans le monde. Pas de vision très claire non plus pour ce qui concerne l'Europe méditerranéenne, la Turquie, les États-Unis et j'en passe. Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson.